Le lendemain matin, Lucien s'éveilla dans les joies enchanteresses que lui prodigua Coralie. L'actrice redoubla d'amour et de tendresse, comme pour compenser par les plus riches trésors du cœur l'indigence de son nouveau ménage. Elle était ravissante de beauté, ses cheveux, échappés de dessous un foulard tordu, blanche et fraîche, les yeux rieurs, la parole gaie comme le rayon du soleil levant qui entra par les fenêtres pour dorer cette charmante misère. La chambre encore décente était tendue d'un papier vert d'eau à bordure rouge, ornée de deux glaces, l'une à la cheminée, l'autre au-dessus de la commode. Un tapis d'occasion acheté par Bérénice de ses deniers, malgré les ordres de Coralie, déguisait le carreau nu et froid du plancher. La garde-robe des deux amants tenait dans une armoire à glace et dans la commode. Les meubles d'acajou étaient gardés en étoffe de coton bleu. Bérénice avait sauvé du désastre une pendule et deux vases de porcelaine, quatre couverts en argent et six petites cuillères. La salle à manger, qui se trouvait avant à la chambre à coucher, ressemblait à celle du ménage d'un employé à 1200 francs. La cuisine faisait face au palier. Au-dessus, Bérénice couchait dans une mansarde. Le loyer ne s'élève pas à plus de 100 écus. Cette horrible maison avait une fausse porte cochère. Le portier logé dans un des vantaux condamnés, percé d'un croisillon par où il surveillait 17 locataires. Cette ruche s'appelle une maison de produits en style de notaire. Lucien aperçut un bureau, un fauteuil, de l'encre, des plumes et du papier. La gaieté de Bérénice qui comptait sur le début de Coralie au gymnase, celle de l'actrice qui regardait son rôle, un cahier de papier noué avec un bout de faveur bleue, chassèrent les inquiétudes et la tristesse du poète dégrisé. Pourvu que dans le monde on ne sache rien de cette dégringolade, nous nous en tirerons, dit-il. Après tout, nous avons 4 500 francs devant nous. Je vais exploiter ma nouvelle position dans les journaux royalistes. Demain, nous inaugurons le réveil. Je me connais maintenant en journalisme, j'en ferai. Coralie, qui ne vit que de l'amour dans ses paroles, baisa les lèvres qui les avaient prononcées. En ce moment, Bérénice avait mis la table auprès du feu et venait de servir un modeste déjeuner composé de brouillés, de deux côtelettes et de café à la crème. On frappa. Trois amis sincères, d'Arthez, Léon Giraud et Michel Chrétien, apparurent aux yeux étonnés de Lucien qui, vivement touché, leur offrit de partager son déjeuner. « Non, dit d'Arthez, nous venons pour des affaires plus sérieuses que de simples consolations, car nous savons tout, nous revenons de la rue de Vendôme. Vous connaissez mes opinions, Lucien. Dans toute autre circonstance, je me réjouirais de vous voir adoptant mes convictions politiques. » Mais dans la situation où vous vous êtes mis en écrivant aux journaux libéraux, vous ne seriez passé dans les rangs des ultras sans flétrir à jamais votre caractère et souiller votre existence. Nous venons vous conjurer, au nom de notre amitié, quelque affaiblie qu'elle soit, de ne pas vous entacher ainsi. Vous avez attaqué les romantiques, la droite et le gouvernement. Vous ne pouvez pas maintenant défendre le gouvernement, la droite et les romantiques. Les raisons qui me font agir sont tirées d'un ordre de pensée supérieur. La fin justifiera tout, dit Lucien. Vous ne comprenez peut-être pas la situation dans laquelle nous sommes, lui dit Léon Giraud. Le gouvernement, la cour, les Bourbons, le parti absolutiste, ou, si vous voulez tout comprendre dans une expression générale, le système opposé au système constitutionnel, et qui se divise en plusieurs fractions toutes divergentes dès qu'il s'agit des moyens à prendre pour étouffer la révolution, est au moins d'accord sur la nécessité de supprimer la presse. La fondation du réveil, de la foudre, du drapeau blanc, tous journaux destinés à répondre aux calomnies, aux injures, aux railleries de la presse libérale, que je n'approuve pas en ceci, car cette méconnaissance de la grandeur de notre sacerdoce est précisément ce qui nous a conduit à publier un journal digne et grave, dont l'affluence sera dans peu de temps un spectacle des sorties imposantes et dignes, dit-il en faisant une parenthèse. Eh bien, cette artillerie royaliste et ministérielle est un premier essai de représailles, entrepris pour rendre libéreux vos traits pour traits, blessure pour blessure. Que croyez-vous qu'il arrivera, Lucien? Les abonnés sont en majorité du côté gauche. Dans la presse, comme à la guerre, la victoire se trouvera du côté des gros bataillons. Vous serez des infâmes, des menteurs, des ennemis du peuple. Les autres seront des défenseurs de la patrie, des gens honorables, des martyrs, quoique plus hypocrites et plus perfides que vous, peut-être. Ce moyen augmentera l'influence pernicieuse de la presse en légitimant et consacrant ses plus odieuses entreprises. L'injure et la personnalité deviendront un de ces droits publics, adoptés pour le profit des abonnés et passés en force de choses jugées par un usage réciproque. Quand le mal se sera révélé dans toute son étendue, les lois restrictives et prohibitives, la censure, mise à propos de l'assassinat du duc de Berry et levée depuis l'ouverture des chambres, reviendra. Savez-vous ce que le peuple français conclura de ce débat? Il admettra les insinuations de la presse libérale. Il croira que les Bourbons veulent attaquer les résultats matériels et acquis de la Révolution. Il se lèvera quelques beaux jours et chassera les Bourbons. Non seulement vous salissez votre vie, mais vous serez un jour dans le parti vaincu. Vous êtes trop jeune, trop nouveau venu dans la presse. Vous en connaissez trop peu les ressorts secrets et les rubriques. Vous y avez excité trop de jalousie pour résister au tollé général qui s'élèvera contre vous dans les journaux libéraux. Vous serez entraîné par la fureur des partis qui sont encore dans le paroxysme de la fièvre. Seulement, leur fièvre a passé. Les actions brutales de 1815 et 1816, dans les idées, dans les luttes orales de la Chambre et dans les débats de la presse. Mes amis, dit Lucien, je ne suis pas l'étourdi, le poète que vous voulez voir en moi. Quelque chose qui puisse arriver, j'aurais conquis un avantage que jamais le triomphe du Parti libéral ne peut me donner. Quand vous aurez la victoire, mon affaire sera faite. Nous te couperons les cheveux, dit en riant Michel Chrestien. J'aurai des enfants alors, répondit Lucien, et me couper la tête, ce sera ne rien couper. Les trois amis ne comprirent pas Lucien, chez qui ses relations avec le grand monde avaient développé au plus haut degré l'orgueil nobiliaire et les vanités aristocratiques. Le poète voyait, avec raison d'ailleurs, une immense fortune dans sa beauté, dans son esprit appuyé du nom et du titre de comte de Rubempré. Madame d'Espard, Madame de Bargeton et Madame de Montcornet le tenaient par ce fil comme un enfant tient un hanneton. Lucien ne volait plus que dans un cercle déterminé. Ses mots, il est des nôtres, il pense bien, dit trois jours auparavant dans les salons de Mademoiselle des Touches, l'avait enivré, ainsi que les félicitations qu'il avait reçues des ducs de Lenoncourt, de Navarreins et de Grandlieu, de Rastignac, de Blondet, de la belle duchesse de Maufrigneuse, du comte des Hérignons, de Delupeaux, des gens les plus influents et les mieux en cour du parti royaliste. « Allons, tout est dit, » répliqua d'Arthez. « Il te sera plus difficile qu'à tout autre de te conserver pur et d'avoir ta propre estime. Tu souffriras beaucoup, je te connais, quand tu te verras méprisé par cela même à qui tu te seras dévoué. » Les trois amis dirent adieu à Lucien sans lui tendre amicalement la main. Lucien resta pendant quelques instants pensif et triste. Et laisse donc ce niais-là, dit Coralie en sautant sur les genoux de Lucien et lui jetant ses beaux bras frais autour du cou. Ils prennent la vie au sérieux et la vie est une plaisanterie. D'ailleurs, tu seras comte, Lucien, de Rubempré. Je ferai, s'il le faut, des agaceries à la chancellerie. Je sais par où prendre ce libertin de Delupeaux qui fera signer ton ordonnance. Ne t'ai-je pas dit que, quand il te faudrait une marche de plus pour saisir ta proie, tu aurais le cadavre de Coralie ?